Bonjour William Acker, vous êtes juriste, issu de la communauté des gens du voyage, on va revenir là-dessus, militant également. Et justement, j'aimerais commencer par cette critique que vous faites sur ce que vous appelez une catégorie administrative, qui est celle des gens du voyage.
C'est très important de revenir là-dessus parce qu'effectivement, on a toujours tendance à croire que ce nom vient un peu des principaux concernés, à une réalité aussi ethnologique parfois. Or, le terme « gens du voyage » est un terme administratif qui a été donc inventé par le droit, qui a été créé en 1969 et qui est venu remplacer en fait un statut qui existait depuis 1912, qui était celui de nomade. Et encore, avant 1912, on parlait de bohémiens, romanichels et tziganes. Donc en fait, il y a toujours eu une catégorisation par le droit des peuples qu'on assimile, à tort ou à raison d'ailleurs, à des tziganes. Et la catégorie administrative gens du voyage, comme le statut de nomade avant, est avant tout un terme juridique et qui recouvre donc des critères juridiques précis. Celui de nomade, c'était un critère de mobilité. Donc, pendant très longtemps, on a saisi le nomade par la mobilité. Et celui de gens du voyage, c'est un critère d'habitat. Donc on ne saisit pas le gens du voyage par rapport à sa mobilité, mais bien par rapport au fait qu'il ait comme résidence principale une habitation mobile et que cette habitation mobile soit traditionnelle, c'est-à-dire que finalement il y a une forme d'héritage dans sa famille, dans l'habitat mobile. Et ça pose un petit peu problème parce que ce terme traditionnel dans la loi Besson, donc, qui est la loi qui organise l'accueil et l'habitat des gens du voyage, ce terme traditionnel en fait, il renvoie à une forme d'héritage et donc quelque part c'est borderline on va dire avec une sorte de catégorisation ethnique. Donc ça pose aussi problème de ce point de vue-là.
Il y a quelque chose d'un peu paradoxal parce qu'avec la juridiction, les lois, dont celle, dont la loi Besson qui date de 2000, et on a l'impression qu'il y a une tension entre le fait de, enfin, que cette catégorisation d'un certain côté discrimine et d'un autre côté, on a l'impression que les lois tendent à vouloir inclure et à normaliser des habitudes de vie, des modes de vie.
C'est tout le paradoxe, c'est toute la complexité en fait de l'appréhension du fait minoritaire dans un État-nation qui ne peut pas reconnaître la minorité puisque le principe même du droit français, le fondement en tout cas, un des fondements, c'est le principe d'égalité. Donc on ne peut pas différencier des citoyens comme ça sur des fondements ethniques par exemple, c'est pas possible. Donc on a tenté en fait de créer des catégories qui permettent d'appréhender un fait qui est celui de l'itinérance en société et de le régir, en quelque sorte. Sauf que, historiquement, l'appréhension n'a pas été faite sur l'itinérance, mais sur le nomadisme. Et on rappelle quand même que le nomadisme, c'est une forme de pratique qui est souvent reliée à des activités pastorales, de cueillette ou de chasse. C'est pas forcément le cas de ceux qu'on a qualifiés de nomades en France. Voilà. Et finalement, c'est pas tous les types d'itinérance ou de nomadisme qui ont été visés historiquement, mais bien le nomadisme dit tzigane, c'est-à-dire celui qu'on associe au tzigane. Effectivement, après la Seconde Guerre mondiale et les phases d'internement et de spoliation et d'assignation à résidence et de déportation aussi dans une certaine mesure, puisqu'il y a quand même eu près de 350 nomades, en tout cas tziganes, déportés dans le nord de la France, après cette période vraiment dramatique, les pouvoirs publics se sont questionnés et ont dit, comment on peut faire pour... on va dire inclure, puisque c'est le terme que vous avez utilisé, inclure les nomades dans la société. Je rappelle que le nomade, c'était le statut qui existait à cette époque-là, juste après la guerre. Mais finalement, l'inclusion, entre guillemets, du nomade dans la société, elle n'est jamais passée que par la sédentarisation. C'est-à-dire que quand on a eu le décret de 1940 qui a ordonné l'assignation à résidence du nomade, puis en octobre qui a fait interner les nomades français, à la fin de la guerre, le ministère de l'Intérieur marque la fin de cet internement en 1946, donc à l'été 1946. On a un ministère de l'Intérieur qui envoie un télégramme aux préfets et aux sous-préfets dans les régions et qui leur dit, écoutez, c'est fini, on arrête d'interner les nomades. Donc, quand même, on est bien après la guerre, puisqu'on est en été 46 quand même. On arrête d'interner les nomades, on libère les derniers. Et surtout, il faut veiller à profiter des résultats heureux de cet internement. C'est-à-dire, quelque part, il faudrait continuer cette œuvre de sédentarisation. Alors évidemment, de façon plus humaine, mais il faudrait la continuer. Et finalement, dès le début des années 50, on a mis en place des commissions interministérielles pour réfléchir à tout ça. Et finalement, petit à petit, de fil en aiguille, de décennie en décennie, on a créé des terrains spécifiques aux nomades, et puis ensuite aux gens du voyage après la loi de 69, des terrains donc spécifiques qui sont censés accueillir. Il se révèle très clairement que ces terrains n'accueillent pas, que ces terrains en fait sont des terrains de d'assignation spatiale, c'est-à-dire que on détermine un endroit dans la ville précis où les gens du voyage seront cantonnés. Et surtout, ces terrains subissent aujourd'hui, et puis depuis très longtemps d'ailleurs, puisque c'est un problème qui est très vieux, des atteintes environnementales et des effets de relégation très forts. Donc en fait, il y a toujours eu une forme de paradoxe entre ce qui est affiché, et l'esprit des lois notamment, et la mise en pratique. Et effectivement, quand on a une loi qui a un esprit d'accueil, etc., enfin, en tout cas, c'est quand même ce qui est souligné dans la loi, mais qui reste assez quand même souple, c'est-à-dire qui permet beaucoup de latitude dans la mise en œuvre pour les collectivités et pour donc les personnes publiques qui vont mettre en œuvre cette loi sur le terrain, et que de l'autre côté, nous avons quand même dans la société un rejet qui est quand même assez massif des gens du voyage et de l'accueil des gens du voyage, quoi qu'on en dise, et donc des élus qui se font aussi écho de ce rejet-là, bah, effectivement, la mise en œuvre de la loi, ça peut pas forcément bien se passer. C'est ce qui se passe depuis des décennies, c'est-à-dire que on a énormément de retard dans les constructions des terrains d'accueil, et surtout, ça a contribué à faire une chose, c'est-à-dire qu'on a appréhendé l'accueil par le prisme de la générosité ou de l'hospitalité. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, ben, finalement, on vous donne des terrains d'accueil, vous êtes chanceux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça, on est quand même bien accueillant dans notre pays, on essaye quand même bien de vous inclure, maintenant, c'est à vous, la balle est dans votre camp. Mais en réalité, c'est pas vraiment donner des terrains d'accueil. En réalité, c'est que on a quand même restreint une possibilité de voyager de librement sur un territoire à quasiment rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur un département, vous allez avoir, sur certains départements, un ou deux terrains d'accueil. Et vous imaginez bien que un ou deux terrains d'accueil sur un département, ça vous prive d'accès à 99% des départements en réalité. Donc, on est sur un paradigme, en fait, on est sur un discours qui n'a jamais été pris au prisme des ressentis des voyageurs. Et les voyageurs, pas tous, mais une partie des voyageurs, ont le sentiment, quand même, d'être mis à l'écart et absolument pas d'être accueillis, en fait. C'est ce paradoxe aussi qui est soulevé dans le travail que je fais.
Alors, vous avez parlé des terrains, ce qu'on appelle communément les aires d'accueil de gens du voyage, parfois aussi les aires de grand passage, parce qu'il y en a... Il en existe deux sortes. Vous étudiez beaucoup les configurations en fait de ces terrains un peu partout en France. Donc, quelle est la réalité des aires? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en avant par votre travail?
Pourquoi j'ai commencé ce travail? C'est simplement parce que nous manquions de données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voulait porter un discours sur la qualité, en tout cas, de la localisation des aires d'accueil, c'est-à-dire le fait que systématiquement ces aires soient situés en dehors, très loin des villes, et en plus à côté d'installations polluantes type déchetterie, station d'épuration, autoroute, usine Seveso, etc. Lorsque l'on veut dénoncer ça, on manque de données. On n'a pas de données quantitatives, en fait, sur ce fait qui est un fait qui est connu de tous depuis longtemps. Et donc, l'objectif, c'était de recenser l'ensemble des aires d'accueil françaises. Il y en a à peu près entre 1700 et 1800, peut-être même un peu plus, de les recenser et de tirer des statistiques, de tirer des chiffres, des données, et d'une part sur la localisation, parce que là aussi c'est un autre problème, c'est qu'on ne localise pas toutes les aires d'accueil aujourd'hui en France, c'est quand même un paradoxe, d'autre part aussi sur les effets de relégation et de pollution. Et effectivement, dès que j'ai commencé ce recensement, ce que j'ai pu constater, c'est une relégation systémique, non pas systématique, parce que c'est pas un automatisme, mais ça y ressemble quand même, puisqu'on est... à près de 8 aires d'accueil sur 10 qui est vraiment éloigné des villes ou situé dans des zones qui ne sont pas faites pour vivre, en fait, qui sont des zones industrielles ou des zones commerciales, et les effets de pollution qui sont indéniablement liés à la relégation, puisque quand on éloigne des infrastructures, on les place à côté d'infrastructures qu'on a aussi éloignées pour des raisons de nuisance. Et donc, forcément, quand on éloigne des aires d'accueil, il faut pouvoir aussi les raccorder à l'eau et l'électricité sans que ce soit trop cher, et donc on les place à côté de déchetteries, de stations d'épuration, etc., etc. Mais aussi, par exemple, de cimetières. Donc, c'est ça qu'on note, et Ce qui était très intéressant avec ce recensement, c'est qu'au-delà du simple fait de localiser, j'ai aussi récolté un certain nombre de témoignages, parce que c'était aussi le principe du recensement, c'était aussi de dire, bah, finalement, la puissance publique n'a jamais produit des données qui ne l'arrangent pas, en quelque sorte, et donc c'est aux voyageurs de les produire eux-mêmes. Et donc, effectivement, dès que j'ai pu, j'ai récolté du témoignage pendant un an et demi de différents habitants d'aires d'accueil, donc ça a été très intéressant parce que ça me permettait d'avoir un éclairage par la base, en fait, hein, en tout cas sur place directement, sur les conditions de vie. Et puis aussi, j'ai épluché la quantité phénoménale de production médiatique autour des aires d'accueil, parce que chaque aire d'accueil fait l'objet de plusieurs articles, pour son inauguration, pour sa fermeture administrative, s'il y a des dégradations, s'il y a des installations illégales à l'intérieur, etc. Et ce qui était très intéressant, en fait, c'est de noter que les élus locaux, lorsqu'ils font le choix de la localisation, ne se cachent absolument pas du fait que leur intérêt principal, c'est de mettre l'aire d'accueil le plus loin possible des autres habitants pour ne pas avoir de répercussions politiques trop fortes. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que l'aire d'accueil, c'est pas, en tout cas l'accueil des gens de voyage, c'est pas une mesure populaire dans l'opinion publique. Et on sait très bien que accueillir, même en étant obligé par la loi, c'est prendre un risque politique. Et atténuer le maximum ce risque politique, c'est placer une aire d'accueil le plus loin possible des autres habitants de la ville. Et on se rend compte que, bah, il y a des mécanismes qui se mettent en place et qui contribuent au fait que les aires d'accueil soient, de manière systémique, éloignées et polluées.
Il y a donc un phénomène de relégation, voire de marginalisation. Ça me donne envie d'employer un terme, puisqu'on avait commencé avec un petit retour historique. Est-ce qu'on peut parler de ghetto par rapport aux aires d'accueil ?
Alors, le ghetto, c'est difficile de dire ghetto, parce que le ghetto, en fait, c'est corrélé, intimement lié, en tout cas, à la sédentarité. Un ghetto, il s'installe dans le temps aussi. Il s'installe dans l'espace et dans le temps. L'aire d'accueil, on a des aires d'accueil, en règle générale, sont des lieux où les gens sont de passage. Or, il y a un phénomène, effectivement, qui pourrait se rapprocher d'une forme de ghettoisation, on va dire, c'est le fait que un certain nombre de voyageurs précarisés par les lois Besson, c'est-à-dire à qui, bah, finalement, qui avaient des modes de voyage plus ou moins libres avant, en tout cas, qui avaient des circuits de voyage définis par rapport à une économie, par rapport à des liens sociaux, etc. Ben, tout ça, ça a été brisé par les lois Besson parce que finalement, avant, on avait accès à plus ou moins toutes les communes de France et aujourd'hui, les communes qui accueillent, c'est à peine 4% des communes. Donc, ça a quand même bouleversé pas mal les choses et ce qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées précarisées et qui se sont retrouvées à se fixer sur les aires parce que n'ayant plus les moyens de voyager. Et donc ça, c'est un phénomène qui est pas encore très bien quantifié, qui dans certains départements est critique, c'est-à-dire si vous prenez par exemple le département de Seine-Saint-Denis, vous avez la majorité des gens qui sont sur les aires d'accueil qui sont fixés. Ce ne sont plus des aires d'accueil, ce sont des aires en fait d'habitat, en quelque sorte. Et là, ça pose un problème, parce qu'effectivement, quand les gens se fixent dans des zones qui ne sont pas habitées, où il n'y a pas de voisinage, ou qui sont polluées, qui sont au bord d'une autoroute, qui sont victimes de multiples nuisances, et quand je parle de nuisances, il faut bien se figurer ce que c'est, les nuisances. Ce sont des vibrations, c'est de la poussière, c'est du bruit, c'est tout un tas de maladies qui viennent avec. C'est quand même quelque chose d'assez invivable. Et surtout, ces lieux qu'ils ont relégués amènent d'autres discriminations de fait, c'est-à-dire que ce sont aussi des lieux qui sont fréquemment utilisés comme des décharges publiques, des décharges légales tout du moins. C'est-à-dire que les habitants de la ville, les entreprises, les gens peu scrupuleux vont aller dans ces lieux qui sont isolés et peu surveillés et vont aller jeter leurs déchets à proximité. Ce qui fait qu'on a des situations sanitaires qui sont parfois assez dramatiques et qui en plus sont systématiquement imputées aux gens du voyage. On dit, bah, regardez comme ils sont sales autour de l'aire d'accueil, tous ces déchets, etc. Alors même que la plupart du temps, la présence de ces déchets et de ces pollutions autour des aires d'accueil est due au fait de leur isolement et au fait que des gens peu scrupuleux préfèrent aller décharger la nuit à proximité de ces lieux plutôt que de payer la déchetterie. Donc on a un espèce de cercle vicieux comme ça qui entretient effectivement, dans certains cas, une forme de ghettoisation, mais moi, je parlerais plutôt de marginalisation au sens large, puisque, effectivement, vous l'avez souligné, c'est une forme de marginalisation, de relégation, en fait, qui me fait dire, en tout cas, qui me fait penser, que on n'est pas vraiment dans un système d'accueil, mais plutôt un système de stockage, ou un système de mise à l'attente ou de gestion matérielle, en fait. C'est-à-dire que l'idée est quand même de regrouper en un même lieu des populations qui sont visées comme un problème depuis un siècle et demi en France, et par le droit et par l'opinion publique, de les regrouper en un même lieu et loin des autres. Donc forcément, on a des phénomènes de marginalisation, et surtout, on n'entretient pas, en tout cas, on ne peut pas créer du dialogue et de l'inclusion en procédant de cette manière-là. Parce que l'impact psychologique de vivre et de dans une succession de lieux qui sont isolés et pollués, l'impact psychologique, il est très fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on est enfant et que tous les lieux qui nous sont réservés, ce sont les arrières d'usines, de déchetteries ou de stations d'épuration, bah, à un moment donné, on se dit, bah, là, voilà la place que la société me réserve, j'en ai pas d'autre. Donc il y a aussi cet effet-là qui doit être discuté en tout cas, et qui est réel chez les voyageurs.
Est-ce que cette suite de décisions institutionnelles et la restriction de la possibilité d'installation pour les gens du voyage, ou en tout cas la gestion telle qu'elle est faite actuellement par les institutions, est-ce que ça veut dire qu'on s'achemine vers la fin du voyage ?
C'est une crainte qui existe depuis longtemps. Là encore, pour en parler, il faudrait la quantifier. Quantifier en tout cas ce phénomène de sédentarisation, parce que à l'heure actuelle, on n'a pas de chiffres réels, on a des approximations des pouvoirs publics qui disent, bon, ben voilà, nous avons parmi les gens du voyage un tiers de gens qui voyagent toute l'année, un tiers de semi-sédentaires et un tiers de gens du voyage sédentaire, dont on voit déjà, en plus, la forme un peu oxymorique du terme, puisque gens du voyage sédentaire, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, ça veut bien dire qu'on maintient dans une catégorisation des personnes qui ne voyagent plus et qui n'ont même plus lieu en fait d'être catégorisés ainsi. Le phénomène, à titre personnel et par mon expérience, moi je le mesure dans mon cercle familial, je mesure dans mon cercle même élargi, des amis de ma famille et des fréquentations que j'ai connues. Effectivement, je constate que depuis des années, les gens voyagent moins. En tout cas, s'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, dans ma famille, on voyageait toute l'année. Depuis, ça s'est tassé et les gens ne voyagent que l'été. Et même certains ont arrêté de voyager. Il y a eu aussi des personnes qui ont été, à qui on a, entre guillemets, permis l'accès à des situations d'habitat. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont eu une politique volontariste de sédentarisation que eux appellent accompagnement à la sédentarisation, comme si c'était une forme de, parce que la sédentarisation, en tout cas, aux yeux des pouvoirs publics, est une volonté du voyageur. C'est le voyageur qui exprime la volonté d'être sédentarisé, on l'accompagne. Alors en réalité, c'est un peu plus complexe et nuancé que ça, puisque la sédentarisation, c'est souvent le résultat d'un choix impossible. On dirait d'un choix d'Hobson, c'est-à-dire finalement, on vous laisse le choix entre un voyage qui est ultra contrôlé, ultra défini, des lieux pourris pour vous installer, des impossibilités de stationnement dans la majorité du territoire français, et de l'autre côté, une vie sédentaire. Bon, et le choix, parfois, il est rapidement fait, surtout quand la précarité entre en jeu. Donc effectivement, moi, je note quand même qu'il y a une sédentarisation. Est-ce qu'elle conduira à la disparition du voyage en tant que tel? J'ai des doutes, parce que il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a une résistance qui existe chez les voyageurs, et c'est pas une résistance qui est récente, c'est pas une résistance qui se construit par rapport à la loi d'accueil, des lois Besson. C'est une résistance qui est très ancienne, qui est documentée depuis le 18e, 19e siècle. Les voyageurs se sont jamais laissés faire. Donc il y a une forme de résistance qui explique aussi pourquoi un certain nombre rejettent par exemple les lieux d'accueil et préfèrent l'installation illégale. Alors je sais que ça c'est incompréhensible pour plein d'élus et pour plein de gens dans l'opinion publique, mais il y a un certain nombre de personnes qui refusent les aires d'accueil. C'est pas parce que les aires d'accueil sont payantes, c'est pas la question de ça. C'est la question que ce sont des fois des lieux pourris, ce sont des lieux aussi où il y a une forme de ghettoisation. Je prends le cas par exemple d'une aire d'accueil qui est pas très loin de chez moi, à Aix-en-Provence, où vous avez 80 emplacements. 80 emplacements, ça fait quand même, si vous multipliez par 4 à peu près, parce que c'est à peu près ça, c'est 4 personnes par emplacement, vous vous rendez compte que sur une surface très petite, on a une densité de population qui est énorme, de personnes qu'on ne connaît pas, des gens qui n'ont pas toujours les mêmes cultures, parce qu'on dit souvent communauté des gens du voyage, mais en réalité, il y en a des dizaines des communautés à l'intérieur des gens du voyage qui n'ont pas toujours la même langue, pas toujours la même culture, pas toujours les mêmes façons d'être, de vivre, etc. Donc en fait, il y a un certain nombre de personnes pour qui l'accueil, dans les aires d'accueil, ça devient insupportable. Et surtout, vivre dans des lieux qui sont dans des états, parce que moi je parle de localisation, mais quand on regarde objectivement l'état des lieux d'accueil en France, on regarde ça de façon objective, là aussi il faudrait des quantifications, mais quand on regarde l'état des lieux d'accueil, ce sont des lieux qui sont dans un état de délabrement total. Ce sont des lieux qui ont été faits à minima, qui ont été faits souvent avec des matériaux, etc., qui ne tiennent pas dans le temps, ce sont des lieux qui se dégradent très vite. Ce sont des lieux où il y a énormément de passages, où l'entretien est insatisfaisant, et qui sont isolés, qui sont sales, qui sont froids, qui sont en béton, qui sont clôturés. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une rénovation d'aire d'accueil dans le Cher, où on a rénové une aire d'accueil en refaisant les clôtures avec des barbelés concertina, c'est-à-dire des barbelés avec des lames de rasoir quand même. Donc forcément, ce ne sont pas des lieux très hospitaliers, et il y a certaines personnes qui essayent d'éviter l'accueil à tout prix. Or, le souci, c'est que un jour ou l'autre, tous les lieux d'accueil seront construits. C'est-à-dire que toutes les collectivités seront aux normes et se seront mis aux normes. Et ce jour-là, le voyage sera interdit sur l'ensemble du territoire. Ce qui est le cas dans certains départements. Quand un département aujourd'hui ou une collectivité en particulier, une intercommunalité, se met en conformité avec son schéma départemental d'accueil, à ce moment-là, elle a la possibilité d'interdire le stationnement sur tout le reste du territoire et de le limiter à l'aire d'accueil. Mais le jour où nationalement, le stationnement sera uniquement limité aux aires d'accueil, les stationnements illégaux ne cesseront pas. Il y aura toujours des gens qui refuseront les aires d'accueil. Il y aura toujours des installations illégales et le problème ne sera pas résolu. Il ne sera jamais résolu. Parce qu'on ne se sera jamais posé la question de finalement, qu'est-ce que c'est que l'accueil et comment il est vécu. Et on aura toujours regardé l'accueil comme une forme de générosité de la société envers les gens du voyage, mais pas forcément comme une forme de violence. Or, en réalité, l'accueil, s'il peut partir d'un sentiment de générosité, il se transforme en pratique en une forme de violence, parfois extrêmement forte.
Parmi les témoignages qu'on a pu nous recueillir à Micro-Rebelle, on sentait, par rapport aux difficultés du voyage, une forme d'épuisement qui, effectivement, amenait à se dire « bon, on serait peut-être mieux et plus tranquille si on acceptait une forme de sédentarisation ». Dans le même temps, ici, je ne sais pas la réalité que ça a ailleurs en France, on commence à voir émerger ou proposer des habitats adaptés. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Et sinon, quelles seraient les solutions qu'on pourrait aussi apporter?
Moi, ce que j'en pense, c'est que finalement, je parle beaucoup d'accueil, d'aire d'accueil, etc. Mais que finalement, c'est un sujet qui ne sera jamais vraiment repris en main par les pouvoirs publics parce que, quelque part, parmi les gens qui pensent l'habitat et l'accueil des gens du voyage aujourd'hui, l'accueil, c'est du passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, les politiques publiques se concentrent majoritairement et massivement sur l'habitat. Et on le voit avec les rénovations des schémas départementaux qui, tous les 5 ou 6 ans, sont révisés à l'échelle départementale. Aujourd'hui, l'accent n'est pas mis sur l'accueil, mais il est bien mis sur l'habitat et sur les constructions de ces habitats, fameux habitats adaptés. Alors déjà, il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un habitat adapté. Un habitat adapté, c'est un terrain familial. Donc c'est par exemple l'État qui possède, ou une collectivité qui possède un terrain et qui va la mettre à disposition de familles, donc de gens identifiés comme des gens du voyage, qui paieront un loyer en retour pour pouvoir y rester. Ça a plusieurs avantages parce que finalement les familles peuvent rester ensemble, ce qui est souvent les demandes qui sont faites. Les gens peuvent vivre aussi dans leur caravane, parce que beaucoup de gens ne voyagent plus, mais souhaitent rester vivre dans leur caravane, ou en tout cas garder cette caravane. Et ensuite, il y a d'autres formes d'habitat adapté qui consistent en fait à une forme de petite propriété, avec donc une maison et un emplacement pour la caravane. Donc ça on le retrouve très souvent. Mais le problème, c'est que ces formes d'habitat adapté, elles sont aussi des formes de relégation. On met très souvent des plans d'habitat adapté à l'échelle, par exemple, d'une ville, on va créer un quartier d'habitat adapté où il n'y aura que des gens du voyage dits sédentarisés. Donc, on va les mettre entre eux dans des maisons qui, elles aussi, souvent, sont construites à minima, c'est-à-dire que là aussi, bon, il y a des bonnes réalisations, hein, je dis pas le contraire, hein, donc. Mais quand même, de façon récurrente, je constate que les maisons sont de piètre qualité et se dégradent très rapidement. On va mettre donc des gens tous ensemble dans une même zone, avec des maisons accolées les unes aux autres. On va leur proposer cette solution, donc eux aussi sont locataires, et vont habiter entre eux à l'écart de la ville dans des zones. C'est le cas, par exemple, si vous allez à Villeparisis, il y a par exemple ce type de quartier à Strasbourg aussi, enfin le quartier du Neuf à Strasbourg, c'est ça, c'est un quartier où on a mis tous les gens du voyage sédentarisés. Ces politiques, en fait, volontaristes publiques d'habitat, elles sont calquées finalement sur des pratiques qui existent depuis très longtemps. C'est-à-dire que au niveau des mairies, le maire a un pouvoir donc de police en termes d'urbanisme et peut s'opposer, préempter, s'opposer à des permis de construire, etc. Et tous ces pouvoirs-là, ils sont utilisés pour regrouper les gens du voyage, propriétaires privés. C'est-à-dire que très souvent, dans les villes, on a une rue où il n'y a que des gens du voyage. Et moi, c'est le cas. Par exemple, j'ai toujours vécu dans ce type de rue. Une rue où il n'y a que des voyageurs, parce que c'était les seuls terrains qu'on nous laissait acheter, finalement. Et donc, là aussi, dans l'habitat tel qu'il est conçu aujourd'hui, il y a ce format-là. C'est-à-dire que ce n'est pas des habitats qui incluent les voyageurs dans la ville et finalement restent de la société, en quelque sorte. Ce sont des habitats qui excluent géographiquement, très souvent. Donc ça, ça pose un problème. Ensuite, moi, je dirais que l'accent sur l'habitat, il n'est pas neuf. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on voit que les politiques publiques mettent un coup d'accélération sur les politiques d'habitat. Mais finalement, depuis 1949, le ministère de l'Intérieur affirme que son objectif final, c'est quand même la sédentarisation de l'ensemble des nomades. Je veux bien croire que on accompagne finalement à la sédentarisation, mais de l'autre côté, on n'accompagne pas au voyage. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont résignés, qui acceptent l'habitat comme une forme de... Voilà, ils n'ont plus le choix, ils acceptent l'habitat, mais qui n'ont qu'un rêve, c'est de repartir sur le voyage. Et pire encore, il y a des gens qui sont en situation de précarité telle qu'ils finissent par abandonner complètement leur habitat mobile, c'est-à-dire la caravane, pour accepter d'être placés dans des... logements sociaux. Et ça, c'est vécu de façon assez dramatique. Moi, j'ai des dizaines de témoignages, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui sont en souffrance extrême de ça, qui ont dû se débarrasser de leur mode de vie en famille, de leur tradition, de leur savoir-faire et savoir-être aussi, parce qu'il faut pas oublier que le voyage, c'est aussi une façon d'être dans la société. Et que quand on abandonne ça et qu'on se sédentarise rapidement, bah, des fois, il y a une période de dépression derrière, quoi. Donc, la sédentarisation, elle doit être regardée non pas comme simplement un état bienveillant qui accompagne des gens qui ont une volonté de se sédentariser, mais comme le résultat d'un processus qui est plurifactoriel. Hein. C'est-à-dire qu'on a renforcé les contraintes pénales sur le voyage coûte de plus en plus cher, il y a de plus en plus de contraintes légales et économiques, on a considérablement réduit les espaces de stationnement, on est sur des espaces de stationnement qui ne sont pas du tout accueillants, on a développé les moyens de police de façon exponentielle ces dernières années. Je rappelle quand même qu'en France, on a découvert un fichier des minorités ethniques non sédentaires en 2010, qui a miraculeusement disparu quand la CNIL a commencé à mettre ses pattes dedans. Je rappelle qu'on a une office de lutte chargée contre la délinquance itinérante, qui quand même est un des principales forces de police qui agit sur les gens du voyage. Et je rappelle encore qu'on a créé la cellule Déméter de la gendarmerie, qui a une vocation à organiser la lutte contre l'installation illégale dans la ruralité. C'est très ancien, c'est très ancien. Et donc tous ces facteurs en fait qui finalement ben, mettent des bâtons dans les roues aux voyageurs font que de l'autre côté les gens finissent par choisir la sédentarité parce qu'ils n'ont plus le choix. Et puis ensuite il y a d'autres facteurs sociaux. C'est aussi la scolarisation obligatoire et le fait que on offre finalement qu'une version, qu'une possibilité dans la scolarisation, qui est la plupart du temps une scolarisation sédentaire en présentiel. La scolarisation à distance ne marche pas. On est plein à avoir fait l'expérience, c'est très compliqué, ça marche pas parce qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis dessus. Les écoles en camion, etc., elles sont en nombre très insuffisant, ce qui fait que y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui se rendent compte que le voyage c'est de plus en plus compliqué et l'avenir de leurs enfants il est de plus en plus incertain et donc il est absolument nécessaire qu'ils aient un niveau scolaire suffisant pour pouvoir ensuite choisir ou en tout cas se débrouiller mieux par la suite. Et donc tous ces facteurs font que les gens se sédentarisent et fait que l'État développe considérablement ses politiques dites d'habitat.
Merci beaucoup William Acker. Je rappelle que tu es juriste, voyageur militant et que tu es l'auteur de « Où sont les gens du voyage ?» qui paraîtra donc en avril 2021, c'est bien ça ?
Tout à fait.